Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, les populations défavorisées sont plus victimes de la Covid que les autres. C'est tabou, mais c'est un fait. Selon une étude publiée par des chercheurs de Harvard au début de l'année, la mort, je cite, « frappe de manière disproportionnée les familles pauvres et peu éduquées ». Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'ils mangent mal, trop gras, trop sucré. Or, le diabète et l'obésité accentuent la morbidité. Mais pourquoi les pauvres mangent mal? C'est là la vraie question. La réponse, comme toujours, est complexe, mais nous allons essayer de la décortiquer avec nos invités. Et surtout, nous allons vous démontrer que ce n'est pas une fatalité. Bien manger, c'est possible, même quand on vit dans la précarité. Installez-vous, il suffit d'écouter. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Vous êtes ingénieur, écologue, chroniqueur pour plusieurs médias, auteur de nombreux livres sur les questions d'environnement et plus spécifiquement d'ailleurs sur l'alimentation. Et vous venez de publier avec Alexis Génie « Ensemble pour mieux se nourrir ». Enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. C'est publié dans la très chouette collection Domaine du possible des éditions Actes Sud. Vous êtes à Paris. Alors, Frédéric Danhé, quel est l'objectif en fait de ce livre ?
Cet objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas que de la fatalité dans ce puits sans fond qu'est la pauvreté en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de structures, et il y en a de plus en plus, qui remettent en cause le modèle traditionnel de l'aide alimentaire, qui a plein de mérites, mais qui a un inconvénient majeur, c'est qu'il empêche les bénéficiaires, comme on dit, c'est-à-dire les pauvres, tout simplement, d'avoir le choix de ce qu'ils et elles mangent. On a un système en France et en Europe qui finalement condamne les pauvres, qui sont eux-mêmes, en tout cas se considèrent comme tels, comme des rejets de la société, et qui sont nourris par le système alimentaire français et européen, par des rejets aussi de la consommation, par tout ce que les autres n'ont pas voulu. Eh bien, il y a des structures, il y a des associations, il y a plein de gens qui ont trouvé un autre moyen de nourrir les pauvres. Et ce qui prouve que finalement, la différence entre les riches et les pauvres, entre celles et ceux qui ont les moyens de manger et les autres, c'est que allez, les riches ont les moyens de choisir, alors que les pauvres n'ont pas les moyens.
Alors, on va revenir sur les solutions et sur toutes ces alternatives, mais... qu'est-ce qui explique que, justement, ce que je disais en introduction, que les pauvres mangent mal ? En France, on parle quand même de 10 millions de personnes hein, qui mangent mal dans le pays de la gastronomie, parce que, vous le disiez à l'instant, ils récupèrent finalement ce dont personne ne veut. Comment ça fonctionne, ça ?
Alors, pourquoi les pauvres mangent mal ? Il y a d'abord une question de moyens, il y a aussi parfois une question de déculturation alimentaire. Les deux sont plus ou moins liés. Il y a une question d'image de soi. C'est pas moi qui le dis, c'est des psy et des diététiciens. Quand on a une mauvaise image de soi, ben on mange quelque chose qui nous ramène sans cesse à cette image. Donc on mange des choses pas belles. Et puis, dans le système de distribution d'aide alimentaire français, l'essentiel, c'est 360 millions d'euros sur 600 millions, je crois. Enfin, une grosse majorité repose sur les dons. C'est-à-dire nous, Anne-Cécile, comme moi, qui allons remplir un caddie à l'entrée du magasin, hein, ça arrive quelques jours par an, et puis les dons que font, les grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire tout leur surplus, tout ce que ces surfaces n'ont pas réussi à vendre, eh bien, elles le donnent, moyennant quoi ? Enfin, elles le donnent. Elles le donnent au sens fiscal du terme, c'est-à-dire que c'est défiscalisé à hauteur de 66%. Donc en fait, c'est nous qui payons ces dons qui n'en sont pas. Et les associations d'aide alimentaire récupèrent ça, plus des produits qui sont fabriqués par des industriels sur appel d'offres européens par le Fonds européen d'aide alimentaire. C'est géré par France Agrimaire qui dépend du ministère de l'Agriculture en France. Et c'est des produits, c'est pas compliqué, hein. On demande du pas cher, du moins cher. Donc les industriels y répondent et ils font du produit transformé, ce qui est déjà pas terrible, mais du produit transformé bas de gamme. Par exemple, ces fameux steaks hachés polonais où il y avait beaucoup de hachés, mais pas de steak. Il n'y avait pas de viande en fait dedans. Et c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on prétend donner aux pauvres. Et il y a des gens qui disent, non, ça c'est plus possible.
Donc, en gros, ce que vous expliquez, c'est que les pauvres, par le système de l'aide alimentaire que l'on connaît en France, par exemple, par les banques alimentaires, les restos du cœur, tous ces systèmes, finalement, recyclent les invendus de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire. Et donc, en fait, ça ne remet pas en cause du tout cette surproduction. Au contraire, ça lui donne des débouchés.
Exactement. Comme je l'ai écrit dans le bouquin, les pauvres, c'est comme les méthaniseurs, en fait. Le système agroalimentaire en a besoin pour éliminer le plus rapidement possible les invendus qui lui coûtent cher. En fait, le pauvre, le ventre du pauvre, comme le ventre du méthaniseur, sont indispensables, enfin en tout cas nécessaires, pardon, pour diminuer les coûts des invendus. Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe. Les pauvres sont exclus du système économique, mais en même temps, ils en font partie parce que s'ils n'étaient pas là, le système agroalimentaire aura des marges plus faibles. C'est ça le paradoxe. Mais finalement, et c'est ce que nous ont dit beaucoup de gens qu'on a rencontrés, c'est mais on nous considère vraiment, pardonnez-moi du terme, comme de la merde. La société nous rejette et en plus on est nourri parce que tous les autres ne veulent pas. Et on a quand même l'impression que, bah, comme vous dites Anne-Cécile, qu'on est là pour recycler. Alors que finalement, on ne fait pas partie du jeu. Mais voilà, c'est des trucs qu'on nous jette. On a été exclus du terrain de foot et on nous jette les ballons comme ça. Tous les ballons crevés, on nous les jette et on nous demande de les digérer. C'est quand même pas terrible pour l'image que ces gens ont d'eux-mêmes.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Les amandes avec peau, les amandes émondées, oui. C'est ça, 500 grammes de comté.
Là, je viens pour le cacao. Là, je suis en rupture et c'est une catastrophe à la maison. Donc voilà, le cacao vrac, non, c'est voilà, on ne peut plus s'en passer, les enfants. Et mon mari, pour les dattes, là, je crois que j'ai 2 kilos, c'est pareil, les dattes, voilà, il ne peut plus s'en passer. Donc c'est vraiment toute la famille, hein, voilà.
Boris Tavernier, le fondateur de l'association VRAC, un acronyme qui signifie « vers un réseau d'achat en commun », nous a donné rendez-vous en milieu d'après-midi dans une banlieue lyonnaise où, comme dans 16 autres endroits de la ville, l'association organise des distributions de produits bio directement du producteur au consommateur. Avant que les clients arrivent, nous nous asseyons dans la cour au soleil pour discuter un peu.
Bonjour, je suis Boris Tavernier, je suis le fondateur de l'association VRAC. On est à Vénissieux, au centre social de Paris. Vénissieux, c'est une commune de 68 000 habitants en banlieue lyonnaise. Et c'est surtout aussi une ville dont 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors on est ici parce qu'aujourd'hui, il y a une distribution de vrac. Et vrac, c'est des groupements d'achat qu'on a développés dans ce genre de quartier, dans ces quartiers dits politiques de la ville, pour rendre accessibles les produits locaux, les produits bio aux habitants, qui sont souvent victimes de double peine, parce qu'on est dans des quartiers, vous avez pu traverser un petit peu, où il n'y a pas de commerce, ou très très peu. Donc même si on a envie de bien consommer, on n'a pas d'offre en face. Et puis surtout, on n'a pas souvent les moyens pour acheter ces bons produits.
VRAC, ça veut dire vers un réseau d'achat en commun, ça existe depuis 2013. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce réseau ?
J'ai sévi dans l'alimentation quelques années auparavant. En 2004, j'ai monté un bar, restaurant, salle de spectacle qui s'appelle De l'autre côté du pont, qui était une coopérative en circuit court. Donc on avait déjà remplacé tous les produits classiques d'un bar par des produits bio, par des produits locaux, avec cette forte motivation de soutenir le monde paysan. À l'époque, c'était le mouvement altermondialiste, José Bové, on avait les cheveux longs, les bonnets péruviens et les pulls en laine qui grattent. Et voilà, on avait envie de changer le monde. On n'a pas réussi, hein, on va être honnête tout de suite. Mais en tout cas, ce bar a fonctionné. Moi, j'y suis resté une dizaine d'années. Et on voulait juste démocratiser mon produit, montrer que ça ne coûtait pas forcément plus cher que de consommer différemment. Mais on a touché quand même un public militant, engagé, sensibilisé. Et l'idée de VRAC, c'était d'aller plus loin. Donc c'est d'abord une rencontre avec la Fondation Abbé Pierre, avec Marc Curie, qui avait envie de monter un projet dans les quartiers pour travailler sur la lutte contre l'exclusion et l'isolement. Et Cédric Van Stevendel, qui lui était directeur d'un bailleur social et qui avait envie de pouvoir développer le reste à vivre de ses locataires. Et moi, avec cette casquette alimentation, donc ça a démarré comme ça. Ils m'ont dit, bon, bah, débrouille-toi, va dans les quartiers et puis on verra ce qu'on peut faire.
Et du coup, comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'architecture de VRAC ?
Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Je voulais quelque chose qui soit le moins contraignant possible. Je ne voulais pas que les personnes soient obligées de prouver qu'elles soient pauvres pour avoir droit à quelque chose. Donc je ne voulais pas de critères et je ne voulais pas qu'il y ait d'engagement non plus dans le temps. Voilà, il fallait lever le maximum de freins, mais d'abord il fallait casser autre chose, il fallait casser un petit peu cette méfiance envers le bio, parce que c'est pas pour nous, hein. Quand on est dans un quartier populaire, le bio c'est pour les riches, donc il a fallu passer beaucoup de temps dans les quartiers, et c'est toujours quelque chose qu'on fait aujourd'hui, de rencontrer les associations, les centres sociaux, toutes les structures, les habitants, de créer un lien de confiance en premier lieu, et puis après de convaincre par le goût. Donc on n'a pas cette posture, venez, on a des produits bio à vendre, vous allez voir, c'est super. On échange beaucoup, on discute, on organise des dégustations au pied des immeubles et on vient tremper un bout de pain dans l'huile d'olive, on vient goûter les jus de fruits, les fruits secs. Et une fois que c'est validé en termes de goût, bah évidemment on parle de prix. Et pour rendre ces produits accessibles, on les revend au prix d'achat. Il n'y a aucune marge qui est effectuée. La farine à 75 centimes est revendue 75 centimes. Et là, bah, on a réussi à convaincre par le goût, par le prix. Derrière, plein de questions, mais d'où ça vient, comment c'est produit? Est-ce que le paysan est bien payé? Et là, on se rend compte que les personnes connaissent très bien ces circuits-là. Pour la plupart aussi, issus de l'immigration, ils avaient des jardins ou même des ruches proches de chez eux. Donc, il fallait vraiment casser cette barrière symbolique, quoi. Et derrière, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, il y a des commandes tous les mois, dans une centaine de références de produits bio. Et les habitants choisissent les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin, sans obligation. Et 10 jours plus tard, ils viennent au centre social, donc là, comme ici à Vénissieux, il y en a une quinzaine sur la métropole de Lyon. Et ils viennent récupérer leurs commandes avec leur emballage, avec leurs bouteilles. Et on joue à la marchande tous ensemble. Donc c'est un projet qui est évidemment économique, hein, de permettre à des personnes d'accéder à des produits qui ne pouvaient pas se payer, de permettre à des paysans des nouveaux circuits de distribution, et puis surtout de... Alors ils ne vont pas mieux gagner leur vie, mais on paye les produits au juste prix, mais par contre ils vont moins bosser. Quand on achète la moitié de la production de l'apiculteur, bah, il ne fait plus les marchés le dimanche, et ça il aime bien. Non, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout cette question de confiance. En fait, on travaille avec des gens dont on connaît leur manière de produire, des personnes qu'on va visiter, qu'on va voir sur place. Au-delà des labels, au-delà du local, c'est vraiment ça qui compte aujourd'hui. On ne sait plus qui nous nourrit et comment on est nourri. Donc il faut vraiment renforcer ce lien entre producteurs et consommateurs. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur place pour être assuré.
Il y a deux sacs de pommes, deux beurre cru, 1 kg de fusilli, 1 kg de riz. Okay. Voilà, tout est là.
Donc aujourd'hui, vous disiez 17 centres de distribution à Lyon. Et puis, voilà, ça a fait des petits. Hein. Vous avez enlevé le bonnet phrygien, vous êtes coupé les cheveux. Et depuis, ça s'est multiplié dans plein d'autres villes.
Ben oui, exactement. Moi, je ne pensais pas. Moi, au départ, j'étais tout seul et ça m'allait très bien. Je me baladais dans les quartiers avec ma planche à découper, mon couteau à fromage. Et puis... très vite, il y a eu d'autres envies, d'autres territoires qui sont venus me voir, dire ouais, mais c'est bien ce que tu fais, nous on a les mêmes besoins. Et puis ça s'est lancé comme ça, d'abord à Strasbourg, puis à Bordeaux, et maintenant dans une dizaine de villes en France, et peut-être même bientôt en Belgique.
Et là, vous venez d'être sélectionné par le plan de relance français, ce qui fait que ça va encore plus démultiplier les points de distribution ?
Oui, là c'est vraiment une vraie reconnaissance institutionnelle au bout de 8 ans. Ça fait du bien quand même, parce qu'on se bagarre depuis longtemps pour montrer qu'il y a d'autres alternatives à l'aide alimentaire. C'est une forme d'aide alimentaire, vrai, que de payer des produits qui ne sont pas margés. Et là, d'être lauréat de ce plan de relance, c'est vraiment une des premières fois que l'État encourage des projets d'aide alimentaire qui ne sont pas liés au gaspillage. Et ça, je trouve ça vraiment fort, parce qu'il y en a vraiment marre que les pauvres aient droit qu'au reste, en fait, ou au bas de rayon, ce qui génère dans les quartiers populaires des taux d'obésité, de diabète qui sont inégalés en France, quoi.
Alors, comment vous faites économiquement pour vendre à prix coûtant ?
Eh ben déjà, on achète en grosse quantité, en gros volume, en direct au maximum pour réduire les frais. Et ensuite, ben, pour financer le projet, on va chercher de l'argent. Donc à la fois les bailleurs sociaux avec qui on a construit ce projet-là, qui eux ont une vraie envie, une vraie volonté à ce que les gens vivent mieux dans leur quartier et puissent aussi économiquement s'en sortir. Donc les bailleurs sociaux financent dans toutes les villes de France, donc ça c'est un vrai soutien fort, puis des collectivités aussi, parce que c'est un choix politique, donc ça c'est aussi une bagarre, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans la start-up nation en France, où même les associations elles doivent générer de l'argent, donc ce qui n'était pas le cas il y a encore une quinzaine d'années, on pouvait avoir des subventions et c'était pas sale, quoi. Et ben aujourd'hui c'est sale d'avoir des subventions, on est nous-mêmes des assistés, donc on est censé générer de l'argent, et moi quand je rencontre des élus, Je leur fais comprendre que c'est un choix politique et que c'est un investissement et pas un coût. Un investissement sur des dépenses de santé qui sont délirantes. Donc c'est pas toujours facile, mais ça avance de plus en plus. Et la crise qu'on traverse depuis un an nous a confortés dans ce choix-là. Et les politiques comprennent mieux maintenant les enjeux. On essaye d'avoir le moins de salariés possible, parce que plus on a de salariés, plus il faut chercher de l'argent. Donc ça reste quand même assez chronophage et épuisant. Mais aujourd'hui, ça tient. Sur Lyon, il y a 5 salariés pour 1200 familles et plus de 300 étudiants. Donc ça reste quand même un ratio intéressant. Et encore une fois, on n'est pas l'aide alimentaire classique. Donc c'est difficile de justifier 1 euro chez Vrac ne peut pas se transformer en 10 repas. C'est parce qu'il y a tout un travail aussi avec les habitants qui sont partie prenante du projet, à la fois sur l'opérationnel, mais aussi dans la gouvernance, et puis toutes les animations qu'on a autour du projet. Nous, notre objectif, c'est pas de vendre le maximum de produits bio locaux dans les quartiers. C'est pas du tout ça. C'est que les gens aient le choix, déjà, et qu'ils se réapproprient leur consommation et se questionnent. Donc nous, on va organiser des sorties à la campagne pour aller voir les paysans, on va faire des concours de cuisine dans les quartiers, des livres aussi, voilà, tout ce qui peut faire causer, intervenir dans les écoles, tout ce qui peut nous permettre de passer des moments et de prendre un peu de plaisir, quoi.
Vous parliez des étudiants, c'est un nouveau public que vous visez depuis 2019 ?
Oui, exactement. En 2019, à Lyon, il y a un étudiant qui s'était immolé devant le Crous. Donc là, ça a été quand même une vraie claque de se rendre compte de cette souffrance, de cette difficulté. Le Crous, c'est là où ils peuvent manger. En fait, c'est eux qui chapeautent un petit peu à la fois les cantines, des résidences étudiantes. C'est vraiment l'institution, enfin c'est l'État quoi, dans la fac, le Crous. Et donc, on a commencé en 2019. Donc évidemment, ça a été assez compliqué avec l'année qui a suivi. Et là, ça a vraiment explosé en 2020 avec des étudiants qui avaient envie de manger des bons produits, qui avaient envie de manger tout court et envie de se retrouver. Donc là, ouais, on a plus de 300 étudiants qui viennent régulièrement sur les distributions et ça fonctionne très bien avec un public qui est vachement sensibilisé au circuit court, à l'alimentation durable et encore une fois, qui n'en avait pas les moyens.
On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
Eh ben allons-y.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui lancent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin au marché.
Alors là, on était sur des petites tables en bois à l'extérieur du centre. On va rentrer. Les premières personnes arrivent pour venir faire leurs courses.
Ah, gel hydroalcoolique obligatoire.
Ça va ?
Bonjour.
Ah, vous avez pile un kilo de confit.
C'est parfait. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Marie-Pierre Fernandez, donc je suis la directrice du Centre social de Paris, donc de toute la structure.
Donc ici à Vénissieux, là vous distribuez les cartons, ça y est, il y a la queue dehors.
Oui, bah c'est, on marche par créneau horaire en ce moment, mais c'est vrai que les gens aiment bien aussi se retrouver. Et puis bah, ils arrivent, y a quelques personnes qui arrivent en même temps, mais comme on a la chance d'avoir une cour, ils en profitent aussi pour discuter.
Et alors il y a beaucoup de demandes aujourd'hui, beaucoup de commandes ?
Comme d'habitude, la crise sanitaire n'a pas fait baisser les commandes. On a à peu près à chaque distribution une quarantaine de commandes.
Donc 40 commandes, ça fait à peu près 160 personnes qui sont nourries grâce à Vrac.
C'est ça, oui, grosso modo. Après, tout dépend des familles, mais oui, ça fait à peu près ça. Ça fait une énorme palette chaque mois aussi de produits.
Alors, qu'est-ce que les gens commandent le plus ?
Alors, beaucoup. Alors, de produits secs, type farine, sucre, pâte. Alors ça, on a toujours des grosses commandes sur ce type de produits. Et après, ça dépend aussi des périodes. On a par exemple des fruits secs en ce moment. On va avoir depuis peu des légumes frais avec la cressonnière du Buget. Puis alors les fromages, le fromage a toujours aussi un grand succès.
On est en France quand même, hein ?
Oui, oui. Voilà, et puis après les jus de fruits aussi, c'est des choses qui sont assez demandées.
Merci. Au revoir, madame.
Et pourquoi est-ce que le centre social a fait appel à Vrac ?
Eh ben, c'était une demande des habitants en fait, du quartier, puisqu'on est un centre social, donc les habitants peuvent venir faire des initiatives et proposer des projets. Et il y avait ce souhait des habitants de faire venir des produits de qualité à un prix raisonnable, d'autant plus qu'on est dans un quartier où il y a très très peu de commerçants. Si vous l'avez parcouru un peu, à part une très grande surface à côté, il n'y a rien. Il n'y a pas de petite épicerie, il n'y a pas de marché. Voilà, donc c'était vraiment une volonté des habitants et nous, le centre social a mis en place. Ça fait partie aussi un peu de la citoyenneté, c'est-à-dire l'aspect de comment bien sourire. Des fois, ça coûte moins cher de se faire son gâteau soi-même que de l'acheter tout frais en grande surface. Donc tout ça, c'est des aspects qui sont travaillés aussi au centre social en annexe. Donc Vrac, c'est aussi une porte d'entrée pour nous, qui nous permet de parler alimentation d'une autre façon aux habitants et aux familles du quartier. Voilà, là, par exemple, typiquement, c'est une famille qu'on connaît très bien.
Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre caddie ?
Que des bonnes choses.
C'est-à-dire ?
De l'huile d'olive, des bonnes pommes, des dattes. Qu'est-ce qu'il y avait dessous ?
Et vous préférez acheter ces produits-là qu'aller au supermarché à côté ?
Ça n'empêche pas, parce qu'il n'y a pas tout, bien entendu. Mais oui, tout ce qu'on peut trouver comme ça, on prend. Oui. Tout ce qui correspond bien à ce qu'on achète... on est habitué des produits locaux et même familiaux, parce que moi j'étais un ancien de la terre. Et donc on avait un jardin chez les parents depuis très très longtemps. Donc on a continué tout le temps à avoir les bons produits. On ne parlait pas de bio à l'époque, mais c'était déjà ça, quoi. On faisait avec le minimum et on continue avec ça.
Qu'est-ce que vous trouvez ici ?
Eh ben, les produits bio, la proximité du lieu d'achat, et puis ils font travailler tous les gens du coin. Le comté vient de là, le fromage de chèvre vient de pas de loin. Puis ils regardent ce qu'ils achètent, c'est pas n'importe quoi.
Ça vous rassure ?
Ouais. Au niveau qualité, au niveau tout ce qu'on pourrait trouver de mauvais ailleurs, là il n'y en a pas, les produits de chimiques là.
Et puis il y a la dimension du prix aussi ?
Aussi, ouais. Si, parce que c'est pratiquement en vente directe, donc ça coûte moins cher. La salade, elle vient pas de loin, donc elle est fraîche, elle est moins chère qu'ailleurs, et puis on fait travailler le petit paysan, quoi.
Et avant que Vrac vienne ici, vous faisiez vos courses où ?
Moi, j'allais en grande surface. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est bien. Bon, c'est même dommage que ça soit qu'une fois par mois, je viendrais plus souvent s'il y avait plus.
Bon, bah écoutez, merci, bonne cuisine.
Bah oui, là, je vais faire ma salade et faire une pizza avec le comté et la sauce tomate.
Bah, bonne pizza. Au revoir. Ah, ils ont l'air bons, ces petits chèvres, là.
Très belle histoire sur le fromage de chèvre.
Ah, l'histoire du fromage de chèvre.
C'est la ferme de Chasse-Nuage. Et en fait, c'était dès 2015, on avait eu un article, je crois que c'était dans Rue 89 Lyon, et le paysan m'appelle. Il me dit, bah écoute, moi je me lance dans l'élevage de fromage de chèvre. Je bossais à la chambre d'agri avant, ma sœur bossait pour Renault Trucks, et tous les deux, On s'est lancé dans la production de fromages de chef bio et on a aussi envie que nos fromages soient accessibles pour des personnes qui ne peuvent pas se les payer. Donc on les baisse de 30-35% pour ton projet. Donc c'était la première fois qu'un paysan m'appelait et qui avait la même envie, la même volonté. Donc ça, c'était hyper touchant. Et ça fait maintenant depuis 6 ans qu'on bosse avec lui. On va régulièrement visiter sa ferme avec les adhérents.
Parce que lui, il n'est pas loin.
Il est à 1 heure de Lyon, 1 heure dans les monts du Pilat.
Vous avez un carton bien chargé. Qu'est-ce que vous avez acheté ?
Des pommes, des jus de fruits, du café, et des compotes de pommes et du fromage.
Et pourquoi vous venez acheter ici ?
Pourquoi je viens acheter ici ? Parce que déjà, c'est tout près de chez moi. Et puis parce que je trouve super de pouvoir acheter des choses de qualité à des prix qui sont quand même pour nous bien plus accessibles que des magasins bio. Voilà.
Est-ce que ça a changé votre façon de vous nourrir, de venir faire vos courses ici ?
Bonjour.
Je pense que j'étais déjà un peu sensibilisée, mais ça a permis de le voir plus dans mon quotidien, que ce soit moins exceptionnel. Quoi.
Payé ?
Pourquoi faire ?
Je fais la relou, désolée. Du coup, ça fait 63,69€.
C'est des témoignages qui font plaisir, ça, Boris Tavernier.
Ah carrément, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années et de voir des personnes qui sont fidèles depuis longtemps et qui ramènent des gens, moi, c'est la plus belle victoire. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de publicité. Enfin, c'est vraiment l'oralité, le bouche à oreille qui fait que ça fonctionne. Et même 3-4 ans plus tard, de continuer sur ce rythme. Parce que c'est difficile de changer ses habitudes de consommation, de commander quelque chose que tu as que 15 jours plus tard, de venir le chercher dans un centre social. Et puis ça continue de fonctionner et le lien continue de se faire. Donc moi, ça me donne toujours de la force pour continuer d'en développer d'autres sur notre territoire.
Boris Tavernier, là, on a vu comment se passait la distribution, on a vu l'enthousiasme des gens, l'enthousiasme des bénévoles. C'est un projet qui fédère. Et ça fait plus de 20 ans, vous, que vous expérimentez, que vous construisez, que vous militez pour justement l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. Qu'est-ce qu'on appelle la précarité alimentaire aujourd'hui, en 2021, en France ?
La précarité, c'est pas avoir le choix, en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes en France. Donc ça a encore explosé avec la crise. C'est 10 millions de personnes qui ne choisissent pas ce qu'elles mangent, qui consomment par défaut, donc surtout à défaut de la qualité et à défaut de leur propre santé. Et on le voit encore, les personnes les plus touchées par la Covid cette année, c'est des personnes fragiles et précaires. Donc il y a vraiment un enjeu fondamental à ce que les gens puissent mieux se nourrir, et puis un enjeu aussi en amont sur la production, à ce que les paysans puissent mieux vivre.
Parce que quand on habite ici à Vénissieux, on a quoi comme choix pour faire ses courses ?
Alors ici dans ce quartier, il n'y a vraiment pas grand chose. Un peu plus loin dans le quartier emblématique des Minguettes, vous avez un grand centre commercial et un discounter au cœur du quartier qui fait 20 000 habitants. Vous avez des marchés, mais sans producteurs, c'est uniquement des revendeurs, parce qu'aujourd'hui, la tomate qui vient venir du Maroc va coûter 4 fois moins cher que celle qui est en France. Donc oui, c'est plutôt, encore une fois, des non-choix. Il y a beaucoup de déserts alimentaires où on peut marcher un quart d'heure avant de pouvoir faire ses courses.
Et ses courses dans un supermarché avec une alimentation de mauvaise qualité, pas chère, mais de mauvaise qualité, donc en même temps pas chère. Donc c'est là où il y a tout un travail d'éducation à faire.
C'est hyper difficile parce que, évidemment, que le côté économique est indispensable. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on compte chaque centime. Et aujourd'hui, cuisiner des produits bruts coûte plus cher que d'acheter des produits transformés. Donc on en est là. Donc évidemment, quand on n'a pas d'argent, on se dit, tiens, on va acheter ça. Cette pizza surgelée, elle coûte pas cher, elle peut nourrir toute la famille. Donc on peut même pas réussir à convaincre les gens, mais remettez-vous à cuisiner. Le côté économique ne fonctionne pas. Donc il y a un enjeu, pour moi, à toucher déjà les enfants, qui sont les consommateurs de demain. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à des cours d'alimentation à l'école. Nous, on peut travailler avec des classes de 6e au Minguette, à Vénissieux notamment. Quand on travaille sur l'alimentation, production, quand on va visiter les producteurs, quand on remet les mains dans la terre, qu'on fait un petit concours de cuisine avec les gamins, et ben ça bouge chez eux. Et en plus, ils vont aller embêter leurs parents pour qu'ils essayent de trouver des moyens de consommer différemment. Nous seuls, on ne peut pas répondre à cette problématique. Aujourd'hui, l'un des seuls projets sur la table qui commence à bouger pas mal, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est que chaque Français puisse avoir un budget alloué à son alimentation. C'est le seul projet universel qui permettrait vraiment à tout le monde de consommer des bons produits.
En fait, c'est le revers de la médaille de plusieurs décennies de mauvais choix, cette situation actuelle. C'est-à-dire, après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de créer l'agriculture industrielle pour de multiples raisons. Et on a fait de la viande pas chère, des légumes pas chers, mais à coup de pesticides et d'antibiotiques. Et aujourd'hui, du coup, dans la tête des gens, finalement, l'alimentation doit représenter une petite part du budget, parce qu'on nous a appris que ça ne devait pas coûter si cher que ça.
Bah, plus on est pauvre, plus ça fait plus c'est une grosse part du budget. Mais surtout quand on est pauvre, l'alimentation c'est toujours la variable d'ajustement. Une fois qu'on a payé le loyer, les factures, il reste souvent pas grand-chose et on va rogner sur l'alimentation. Après sur la grande distribution et l'après-guerre, il fallait renourrir la France. Donc ça a fonctionné, mais sauf qu'on est effectivement on est rentré dans un processus qu'on n'arrive plus à suivre. Et aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi. C'est de la surproduction, c'est des produits de mauvaise qualité. Et puis si c'est des produits de bonne qualité, ben on va les surmarger pour toucher un public qui a les moyens. Donc ouais, il y a des enjeux aussi à modifier ça, mais l'industrie agroalimentaire est encore très très forte, les syndicats agricoles traditionnels le sont tout autant, et ils n'ont pas envie du changement en fait, c'est ça qui est assez dramatique. Aux états généraux de l'alimentation, il y a 4-5 ans, moi j'étais assis à côté du vice-président de la FNSEA qui disait « on a compris en fait, on sait qu'il faut changer ». C'était il y a plus de 4 ans et il ne s'est rien passé.
La FNSEA qui est le syndicat agricole majoritaire en France.
Exactement. Et aujourd'hui, même sur cette question de chèque alimentaire, quand le président de la République a annoncé en décembre dernier sa volonté que les plus précaires puissent aller dans des AMAP ou dans des magasins de producteurs, il n'a pas compris ou en tout cas il va peut-être passer sur le terrain pour se rendre compte que dans certains quartiers ça n'existe pas, mais en tout cas c'était une vraie volonté intéressante. Et moi je me disais naïvement, mais c'est cool, même 10 millions de personnes qui vont pouvoir s'acheter des produits de bonne qualité, ça va peut-être permettre aux paysans qui n'avaient pas cette volonté de passer en bio de changer un peu leur fusil d'épaule et de changer leur manière de produire. Et ben non, on préfère être contre en fait et de dire non, mettez juste produits frais et locaux dans la loi et ça sera très bien. Et je trouve ça assez dramatique. Et la même chose dans les cantines scolaires en fait. Les collectivités proposent aux paysans des débouchés sur plusieurs années dans leur cantine s'ils passent au bio ou s'ils changent un peu leur manière de produire, et ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, le combat va encore être long, et je ne parlerai même pas de la PAC.
La politique agricole commune, qui est en train d'être réformée actuellement, mais pas forcément de manière très ambitieuse. Alors pour revenir au bio, c'est vrai qu'en France, c'est quoi, 9% des surfaces agricoles ?
Alors ça augmente, ouais, je crois qu'on est entre 8,5% et 9%, donc ça augmente chaque année, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec une grande disparité selon les régions. Moi je suis originaire du nord de la France, c'est 1,5% de terres agricoles en bio, donc imaginez les difficultés pour se fournir en bio local, c'est quasiment impossible. Donc là, hormis être très radical au niveau européen, au niveau de l'État, on n'y arrivera jamais, et c'est pas le chemin qu'on prend encore aujourd'hui.
Le bio, vous le disiez, c'est pour les riches.
Oui, bah y a une méfiance par rapport au bio. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Au début de VRAC, les gens venaient parce qu'ils avaient dégusté les produits, les connaissaient, ils avaient confiance. Et surtout, ils ne trouvaient pas ce genre de produits dans la grande distribution. Il y a eu une démocratisation des produits bio dans la grande distrib. Et ils continuent de venir parce qu'ils n'ont pas confiance au bio-industriel. Et ça, c'est intéressant. Ils ont envie vraiment de savoir qui les nourrit et d'où ça vient, quoi.
Quand on pose la question aux gens, on l'a entendu tout à l'heure, tout le monde a envie de manger sain, de bien se nourrir, d'avoir accès à des bons aliments. C'est presque instinctif dans l'absolu. Alors qu'est-ce qui manque ?
Oui, il manque clairement une énorme volonté politique. Je pense qu'il n'y a pas de moyen très pacifique pour... On est obligé d'être radical et d'imposer maintenant, stop, on arrête la chimie, on arrête les produits transformés. Mais encore une fois, les lobbies agro-industriels sont beaucoup plus forts que nous et ça ne va pas dans le bon sens malheureusement.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'enchaîne aux camions qui transportent des produits agro-industriels?
Non, on garde l'espoir, on continue de monter des projets, on continue de montrer que ces projets ont du sens, que ces projets peuvent se multiplier sur le territoire. Quand c'est un magasin coopératif ouvre, ben c'est pas un supermarché. Quand une épicerie libertaire, autogérée se développe, et ben pareil, c'est pas la grande distribution qui récupère des parts de marché. Donc il faut que nous, citoyens aussi, on puisse s'organiser pour pouvoir réussir à consommer différemment. On vote 3 fois par jour en mangeant, donc on peut essayer d'orienter sa consommation, alors avec les moyens qu'on a, évidemment, mais vers autre chose. Et peut-être qu'on arrivera à convaincre.
Merci Boris Tavernier.
Merci à vous.
Vous trouverez les coordonnées de l'association VRAC sur la page internet de l'émission. Frédéric Danhé, je rappelle que vous êtes ingénieur écologue, vous avez écrit de nombreux livres, notamment sur l'alimentation, et vous venez de publier avec Alexis Génie « Ensemble pour mieux se nourrir », enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir justement de la précarité alimentaire. C'est publié aux éditions Actes Sud. Vous connaissez bien l'association VRAC, hein. Vous avez d'ailleurs travaillé avec eux pour écrire ce livre.
Oui, bah c'est Boris Tavernier qui est à l'origine de ce livre, justement, parce qu'il voulait voir si son expérience à lui, s'il y en avait d'autres à l'échelle de la France. Alors, dans son cas précis, il est le seul, Boris, à avoir réussi l'impensable, hein, c'est-à-dire... comme vous l'avez montré, hein, donner la possibilité aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter à prix coûtant sans léser le producteur des produits bio et locaux. Alors il y a d'autres associations qui font différemment, mais c'est vraiment unique, hein, VRAC. C'est une martingale que tout le monde pensait impossible et qui a été rendue possible uniquement, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, vous le savez bien, Cécile, uniquement par la personnalité et le charisme de Boris, largement motivé par ses origines. On est ch'tis tous les deux, on est enfants de prolo tous les deux, lui plus que moi, et je pense que lui comme moi, on sait ce que c'est que de ne pas avoir à bouffer, enfin en tout cas de manger mal, qui plus est dans une région où pendant longtemps, les légumes n'étaient pas si présents que ça, parce qu'on mangeait ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire des patates, des endives et de la betterave. Et du coup, il y a quand même eu un bon côté, hein, à l'industrie agroalimentaire, à l'industrialisation de la fabrication de l'alimentation, parce que ça a augmenté la diversité des produits par la distribution, par la logistique. Moi, je l'ai vu enfant, hein, j'ai vu des produits qui sont arrivés sur le marché qui n'existaient pas avant. En tout cas, voilà, c'est un cas unique et qui, depuis la banlieue de Lyon, a diffusé dans beaucoup de villes, beaucoup de métropoles de France, récemment à Paris, à Lille. Voilà, tellement ce modèle, il est unique et qui répondait à un besoin. Mesdames, messieurs, même les gens qui n'ont pas les moyens ont envie, parce qu'ils le savent, de manger mieux, tout simplement. Parce qu'ils savent que c'est mieux pour eux et pour la planète.
Voilà, et là, ils viennent de bénéficier du plan de relance français. Donc, ils vont pouvoir se développer encore plus largement. Et c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, Boris Tavernier disait, manger, finalement, c'est comme voter 3 fois par jour. Vous êtes d'accord avec ça ?
Évidemment, parce que quand on mange, quand on achète, quand on met des choses dans son assiette, on dit finalement au système agroalimentaire et donc derrière tout ça à la France quel paysage on veut derrière, quel paysage tout court et quel paysage politique. Quand on achète plutôt des légumes que de la viande dégueulasse qui vient de Roumanie, oui, on ne dit pas la même chose au monde agricole. Quand on achète des produits locaux, on ne dit pas la même chose aux élus, on ne dit pas la même chose au monde politique que si l'on achète des légumes, même bio, qui sont importés et qui ont fait 2000 ou 3000 kilomètres. Quand on donne son argent à l'agriculture, une agriculture de qualité qui fait gaffe au sol, qui est bio et qui est, pour vous à Lyon, qui est faite dans la banlieue de Lyon, c'est pas du tout. Enfin, voilà, l'argent reste dans le territoire et on sait à quoi il sert. Donc oui, c'est voter, manger. Bien sûr que c'est voter.
Oui, après, tout ça demande quand même une culture de l'alimentation. Vous le disiez en début d'émission, cette culture, elle a beaucoup disparu.
Elle a disparu parce que le bénéfice de l'industrialisation de l'alimentation qui a fait augmenter l'hygiène alimentaire en 1950, il y a 15 000 Français qui sont morts d'intoxication alimentaire. Ça n'existe plus. Ça a augmenté la diversité alimentaire. Ça a fait baisser le prix de l'alimentation. Mais le corollaire, ça a été qu'on a des produits de plus en plus sains, mais de plus en plus mauvais d'un point de vue nutritif. Puis on a des produits dont on ne sait même plus d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués et à quoi ils servent. En fait, il y a une distanciation de l'alimentation qui s'est créée et qui s'est doublée d'une médicalisation de l'alimentation. C'est-à-dire à la fois, on ne veut plus trop savoir ce qui nous nourrit, avec le succès notamment des produits transformés. Et en même temps, on est complètement schizophrène, on veut des produits qui sont sains, qui ne nous rendent pas malades. Donc l'industrie ne cesse de répondre à cette double injonction en réduisant finalement les produits alimentaires à leur contenu nutritionnel. Sauf qu'elle se plante complètement. La nourriture, ça n'est pas que ça. C'est comme résumer un corps humain, un assemblage de gènes. Ça n'est pas que ça, c'est aussi du plaisir et du symbolique. C'est du lien social, c'est du bien-être et du plaisir. Et on est en train de le redécouvrir avec grande peur. On est en train de se rendre compte de tout ce que l'on a perdu, de la difficulté qu'on va avoir à rattraper ce que l'on a perdu, c'est-à-dire cette culture de l'alimentation qui, avant tout, et je rebondis sur Boris Tavernier parce que son succès, finalement, c'est ça, il a fait redécouvrir à la fois aux producteurs et aux consommateurs que manger, c'est avant tout être en lien avec les autres, c'est avant tout du lien social, c'est pas juste manger un pauvre plat tout préparé devant sa télé tout seul. C'est du lien social et c'est pour ça que ça marche.
Oui, après, c'est vrai que aujourd'hui, on est allé très très loin quand même dans la diversification de l'alimentation, à tel point que on peut tous, quasiment en France aujourd'hui, contrairement à d'autres parties du monde, hein, notamment dans les pays du Sud, avoir de la viande midi et soir sur notre table parce que de la viande pas chère. Mais est-ce que c'est une bonne solution d'inciter les gens à manger beaucoup d'un produit qui finalement est vide d'un point de vue nutritionnel, parce que mal produit, parce que derrière maltraitance animale, parce que derrière surproduction, enfin toutes les dérives quoi, qui vont avec ce système.
Bien sûr. Alors vide d'un point de vue nutritionnel, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Par contre, vide d'un point de vue social, ça c'est sûr et certain.
Bah, disons, bien sûr. 10 poulets à 10 euros, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nutriments dans ces poulets-là.
Non, c'est vrai, il y a un peu de protéines, il y a beaucoup de gras, ça, je suis d'accord, et beaucoup d'os. Alors, ça a été une conquête des 30 Glorieuses. Les gens voulaient manger comme le patron et se déplacer comme le patron. Donc, ils ont eu la voiture et la viande. Mais aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Tout le monde s'en rend compte. Hein, la consommation de viande diminue. Enfin, la viande achetée chez le boucher. Par contre, la viande en ingrédients dans des plats préparés et en restauration hors domicile, celle-ci continue d'augmenter. On est bien schizophrène. Mais oui, c'est complètement stupide. La viande telle qu'elle est produite de façon industrielle dans certains pays, je prends toujours l'exemple de la Roumanie ou de la Pologne, enfin, c'est épouvantable avec des animaux qui sont en plus abattus n'importe comment par des gens sous-payés. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on a effectivement du poulet à 2 euros le kilo, y a quelqu'un qui a payé à votre place. Et c'est un sous-prolétariat qui va abattre et travailler des vaches qui sont considérées comme ce sous-prolétariat. Là, je reprends le discours que tenait Jack London dans Martin Eden. Hein. Finalement, vous, ouvriers, vous vous plaignez de ce que vous subissez, mais dites-vous bien que la viande que vous mangez tous les jours, elle provient d'animaux qui ont subi la même chose. Et c'est en partie pour ça que je suis d'accord avec certains discours tenus par les porte-parole du véganisme. Là, pour le coup, ils ont raison. La symbolique de la viande, oui, elle reste très forte dans les quartiers, elle reste très forte chez les pauvres, parce qu'avoir un bout de barbac, un bout de viande sur son assiette, c'est avouer qu'on n'est pas tout à fait dans la misère, et beaucoup de gens pauvres, ils tiennent à la symbolique de la viande, est très forte, mais il reste une éducation à faire pour faire comprendre aux gens que, non, achetez-en beaucoup moins, divisez par deux ou trois votre consommation, mangez-en trois fois par semaine, de toute façon vos gamins en mangent à la cantine, et puis vous en porterez mieux, et parce que vous aurez appris, vous aurez su d'où cette viande vient, de quels animaux elle provient, de quels élevages elle provient, bah vous assumerez un peu mieux le fait que des animaux ont été tués pour vous, puis vous pourrez vraiment être fier de ce que vous aurez mis dans l'assiette, parce que derrière, vous aurez peut-être entretenu des jolis paysages, des prairies qui ont un rôle écologique important. Mais il y a toute une éducation à faire là-dessus. Il faut des cours de cuisine et de nutrition à l'école, comme moi j'avais eu quand j'étais au collège dans les années 80, mais certains ont estimé que c'était passéiste et que c'était plus à faire, que c'était pas moderne. Mais non, au contraire, il faut un peu revenir en arrière, même largement revenir en arrière là-dessus.
Allez, tous en cuisine. Merci Frédéric Danhé.
Merci Anne-Cécile.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Il y a ceux qui ont compris. Avec le bio, on atteint son apogée et tout. Et vous voyez comment je suis, non? Voilà, j'ai la belle, la pleine forme et tout. Donc, je suis mignon, non? Vous ne me trouvez pas mignon?
Si, allez.
Super, voilà. Donc, c'est ça. Et c'est le bio qui est bon.
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Manger sain, cultiver son jardin, vous êtes nombreux à nous écrire pour témoigner de ses préoccupations et de ses occupations. Certains d'entre vous nous envoient même des photos de leur récolte et ça, on adore. Alors à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de vous donner la parole.
Bonjour Anne-Cécile Bras, c'est Jules Moulien. J'appelle de Kalemi en République démocratique du Congo. Je suis juste sur le littoral du lac Tanganyika. C'est dans le sud-est du Congo. Je suis promoteur d'une initiative agricole qui s'appelle Bwino et je suis un très fidèle auditeur de C'est pas du vent et c'est une des sources principales d'information. Même les livres que nous utilisons sont des livres généralement dont j'ai entendu parler sur C'est pas du vent.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer une coopérative, Jules ? Parce qu'en fait, ce n'est pas votre métier.
Non, c'est pas mon métier. En fait, je suis au départ enseignant il y a bien d'années de ça. Et puis, je suis rentré à l'université, j'ai fait des études de développement. Quelque part, j'ai toujours aimé l'agriculture, mais j'ai fait des études en développement. Alors, quand je me suis installé comme consultant, je me suis rendu compte qu'il y avait une précarité alimentaire énorme. En fait, nous sommes un pays enclavé. La partie Est est complètement enclavée parce qu'il n'y a pas de communication entre Est et Ouest. Ça fait que tout ce que nous mangeons en termes de céréales est importé. Alors j'avais cette peur. Je me disais que si un jour il y avait des problèmes dans un des pays voisins, et c'est fini, on va mourir de faim. On n'a pas de stock, on n'a rien, rien du tout. Alors j'ai commencé à exploiter ces 10 hectares. Vite, vite, ça crée de l'emploi pour certaines personnes. Et puis c'est une nourriture saine, nous faisons de l'agriculture bio. On gagne surtout les coûts, quoi. On a notre propre stock de maïs, par exemple, qui est la céréale principale. On en a pour 5-6 mois maintenant de l'année, le reste de l'année. Donc on est bien, il y a une certaine sécurité.
L'un des objectifs aussi, c'était de manger sain.
Absolument. On a récolté des carottes avant-hier. Elles sont des belles carottes, 100% bio.
Les familles qui cultivent et vous-même, vous vous nourrissez de ce que vous produisez. Mais est-ce que vous gagnez de l'argent ? Parce que vous me disiez que c'était difficile de faire face à tous les produits importés.
Oui, voilà, on a ça, c'est un gros souci. Nous importons à l'échelle nationale des denrées alimentaires qui s'évaluent à 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous sommes très tributaires des pays parce que nos politiques agricoles, en fait, ne nous permettent pas d'être des cultivateurs qui font de l'argent. Le maïs, le riz, par exemple, vient de Tanzanie et nous ne sommes pas compétitifs. Ça, c'est un problème qui ne peut qu'être résolu qu'avec de bonnes politiques agricoles. Ça, c'est à une autre échelle. Mais moi, je me bats. Quand nous nous battons à la coopérative, on n'est pas là attentiste à attendre. On trouve des solutions et voilà, on y va. On se bat.
Merci, Jules, pour votre témoignage.
Merci beaucoup, Anne-Cécile Bras. Merci à tous les auditeurs de C'est pas du vent.
Si vous avez envie de témoigner comme Jules dans C'est pas du vent, que ce soit pour parler de vos légumes, d'une pollution proche de chez vous ou d'une initiative enthousiasmante pour préserver l'environnement ou encore tout simplement pour nous poser des questions, eh bien contactez-nous, écrivez-nous et nous reviendrons vite vers vous.
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Natondie Na simili bumu na beti maboka na simili bumu na beti maboka natondie mama natondie Viens manger Viens manger.
Merci à François Bourcheron pour la réalisation de cette émission et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous invite aussi à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr, à nous retrouver sur les réseaux sociaux et à nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées. Si vous aimez cette émission, donnez-nous la note maximale sur ces applications, postez des commentaires, cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.
Le coq chante.